Ils sont le rejeton que j'ai planté de mes plantations. Maaseyada, il lève de mes mains l'Ixpaïr pour m'en glorifier. Je voudrais citer un des enseignements du Rafouk à ce sujet. Il posait la question comment le prophète peut dire, est-ce qu'il ne connaît pas son peuple? Vermeh est ton peuple, Kulam Tzadikim, c'est tous des Tzadikim. Est-ce que les prophètes ont l'habitude de ne pas dire la vérité? Est-ce que vous avez l'idée qu'un peuple tout entier soit fait de tzadikim, c'est une collision de concepts. Un peuple, c'est une entité d'ordre politique. La notion de tzadik, c'est une notion de valeur, une notion d'ordre moral, spirituel. Ça va pas ensemble. Vermeh Kulam Tzadikim. Je vous cite un enseignement des Chassidim qui analyse la notion de tzibour. Le tzibour, ça veut dire en français, le mot m'échappe. Le public, non, pas dans ce sens. La collectivité, un tzibour, ken. Ils écrivent de cette manière, le décompose dans les lettres. Tzibour, c'est tzadik, le tzadik. Bet, benoni, moyen, ni tzadik ni rachar. Vav et Resh Urshaim, Tzadikim, Benonim Urshaim. Un Tzibour, il y a des Tzadikim, bien sûr. Et puis il y a des Benonim, c'est la majorité. Et puis il y a aussi des Urshaim, Dieu préserve, il y a. Et alors, un Tzibour, comment on peut dire un Tzibour vers Amer Kulam Tzadikim? La Halakha va s'emparer du problème et va établir en fin de compte qu'un Tzibour comme tel est composé de ces trois statures morales, le tzadik, le benoni, le rachar. Mais que s'il y a vraiment Tzibour, s'il y a vraiment unité du clan, le Tzibour est tzadik. Ça, c'est l'enseignement de l'Halakha. Le Tzibour est tzadik. En Tzibour Rachar, ça n'existe pas. Pour l'Halakha, de la même manière que En Tzibour Ani. Si vous voyez un Tzibour qui dit qu'il est pauvre, c'est que c'est pas un Tzibour. Vous savez que toutes ces synagogues qui manquent toujours d'argent. Et alors, le Rav avait l'enseigné de dire, et avait l'habitude de le dire, cet enseignement de la manière suivante. Ve'amer Kulam Tzadikim. Si ton peuple est tous ensemble, alors c'est des tzadikim. Quand ils sont coulam, tous ensemble. Top. Et puis voilà le verset. Akaton yé la elef. Le petit deviendra mille. Vatsaïr et le jeune les goy atsum. Une nation puissante. Si on avait dit aux juifs, avant il y a 40 ans, que nous serions, comme on le cite dans les masses médias, une nation puissante, on dit par son armée. Mais pour qu'une nation soit puissante par son armée, il faut qu'il y ait autre chose qui fonctionne. Un petit peuple comme ça, subitement, devenant une nation puissante. Et il y a une référence à l'histoire de Jacob et Ésaü. Vérav, Yahavot, Tzahir, dans le conflit entre Ésaü et Jacob, Jacob est nommé Tzahir, le plus jeune. Et le plus jeune, Tzahir, j'ajoutais plus, le Goy Hatsum, une nation puissante, Ani Hashem, je suis Hashem, Be'ikta Achishena. En son temps, j'avancerai l'événement. Alors à propos de la fin de ce verset, Be'ikta Achishena, en son temps, j'accélérerai l'événement, le Talmud a mis en évidence une contradiction apparente des deux termes, encore une collision de concepts. Si c'est en son temps, qu'est-ce que ça veut dire je l'avancerai? Si c'est avancé, qu'est-ce que ça veut dire en son temps? Et le Talmud, c'est Rabbi Yehoshua ben Levi, donc, enseigne, s'il y a un mérite suffisant, l'événement sera avancé, comme nous prions dans nos prières traditionnelles, Bimera Beyavenu, vite de notre temps, Baragala Bisman Karim, le plus vite possible, et pendant 2000 ans, nous avons dit l'année prochaine, okay, le plus vite possible. Et il y a énormément de citations très importantes, et d'ailleurs classiques, dans cette page du Talmud, Ayom Imbekolo Tishmaru, par exemple, notre verset, quand, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, s'il y a un mérite suffisant, alors ça peut être n'importe quand. Il n'y a pas de loi des temps qui joue. S'il n'y a pas de mérite, l'événement adviendra, arrivera en son temps. Et les commentateurs, j'allais dire contemporains, mais c'est depuis des siècles que ces textes ont été étudiés, indiquent qu'il faut prendre le verset à la lettre, Berita Hishena. Et lorsque ça sera en son temps, ça sera un peu accéléré. Et nous allons voir d'ailleurs tout à l'heure. Parce que si on laisse les choses, si on abdique la liberté qui permet d'intervenir dans l'ordre du mérite qui fait que l'événement peut être accéléré, si on s'abandonne à l'inertie du fonctionnement des événements politiques et donc des événements de l'horloge de la loi des temps, et si on attend minuit pour qu'il soit minuit, alors minuit peut être catastrophique. Et malheureusement tout se passe comme si. Et c'est depuis le temps des prophètes, dans le temps de la Torah, que nous avons cette problématique parallèle. ou bien il y a mérite suffisant, alors c'est une eschatologie bienheureuse. Ça veut dire les événements de la fin des temps, du dévoilement de la fin des temps, et la fin des temps, ça veut toujours dire dans le Mikra, dans la Bible, la fin des temps d'exil. Ça ne veut jamais dire la fin du monde. C'est un problème d'érudition pure et simple. Harit Hayamim, c'est la fin des temps de l'exil. Ce que nous vivons. Eh bien, c'est que s'il y a mérite suffisant, alors vous avez toutes ces prophéties qui se continuent dans les prophètes après la Torah, qui se continuent dans les enseignements et du Midrash et du Talmud et de la Kabbalah, où cette vision de l'eschatologie bienheureuse, tout se passe dans une merveille. Je vous cite de mémoire des versets, les nations du monde prendront vos fils et vos filles sur leurs épaules pour les amener à Jérusalem. Okay. Toutes ces grandes prophéties et descriptions de type mille et une nuits sionistes. Et puis, ça c'est s'il y a un mérite suffisant. Et puis s'il n'y a pas de mérite suffisant, alors ça arrivera en son temps, ça arrivera quand même, ça arrivera en son temps, et ça arrivera avec toutes les difficultés avec quoi ça arrive, quand ça arrive. Bon, je crois qu'il suffit de désigner cette problématique pour montrer, pour indiquer, pour mettre en évidence, encore une fois, à quoi les rabbins pensaient lorsqu'ils pensaient à l'avènement de ce que nous appelons aujourd'hui l'État juif, parce qu'il s'agit d'autre chose. Souvenez-vous, et de la citation de Maïmonide, et Maïmonide n'est pas un enfant qui joue aux billes. Maïmonide, c'est Maïmonide. Et une conséquence absolue dans certains milieux à admettre Maïmonide comme une autorité lorsqu'il dit quelque chose qui fait plaisir à tel ou tel tel, et puis à fermer les yeux sur ce qui est écrit à côté lorsqu'il s'agit de choses aussi importantes. Je pense que c'est clair, je n'ai désigné personne, mais c'est tellement clair que vous avez compris. Top. Et j'aborde donc la citation du Grand de Vilna par le biais de la charnière suivante. Et donc on a espéré la première des éventualités, le plus vite possible, à Rishena, mais finalement on a obtenu que la deuxième. Et alors c'est l'autre série des textes, depuis les prophéties de la Torah, les prophéties des prophètes, les craintes, les inquiétudes, les angoisses des rabbins dans le Midrash, dans le Talmud, dans la Kabbalah, qui décrivent l'éventualité catastrophique lorsqu'il n'y a pas de mérite suffisant. La terreur, nous avons des morceaux de textes qui sont, j'ouvre une petite parenthèse, qui sont, comment dire, mis en tabou par les Gdolim. J'ai eu entre les mains, il n'y a pas très longtemps, c'était Dafka, à Pessah, à une nuit d'études, le livre du commentaire du Gaon de Vilna sur un des passages les plus importants du Zohar, le Sifra d'Ishtinrata, que je vais vous citer tout à l'heure. J'ai eu entre les mains une édition faite à Bnei Brak, expurgée. Le texte que je vais vous lire a été soigneusement évacué sur l'ordre des Gdolim de Bnei Brak. Et ce n'est pas le seul cas, n'est-ce pas ? Bien, je referme rapidement la parenthèse, sinon l'atmosphère risque de s'échauffer. Alors, je reviens donc au problème, c'est ceci. C'est que on a espéré le Bimehera Beyamenu, mais finalement, les rabbins ont diagnostiqué à travers le temps que le peuple juif avait opté pour la deuxième éventualité, attendre qu'on ne puisse pas faire autrement. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. D'où cette inquiétude, cette angoisse des rabbins, se disant que Dieu préserve que ça n'arrive pas en son temps. Parce que si ça arrive en son temps, hors de la clause du mérite, ça risque d'être catastrophique malheureusement. Les catastrophes sont arrivées. De ce fameux accouchement dans la douleur, les mots ayant malheureusement leur sens tragique, et pas seulement leur sens simple, comme vous le savez. Donc il n'y a pas de contradiction entre ces deux lignes d'enseignement, c'était ou bien. Mais encore une fois, à travers le temps, on s'aperçoit que le volume des textes qui désignent l'éventualité catastrophique, Beita Hazve Shalom, dira le Gaon de Vilna, sont de plus en plus abondants, sont de plus en plus angoissés, et sont de plus en plus malheureusement éclairant des événements que nous avons traversés. Ensuite, immédiatement après cette citation, j'ai encore deux petites analyses à vous proposer. C'est d'une part le parallèle entre les événements de la restauration du deuxième royaume de Juda et notre temps contemporain, et en fin de compte, une des citations des enseignements qui nous sont donnés dans la liturgie de Yom HaTzmaout que nous allons célébrer donc demain en calendrier hébraïque. Et voilà donc ce qu'enseigne Gaon de Vilna. Cette citation est donc dans son commentaire du Sifra d'Itniouta. C'est un des livres du Zohar à propos de la paracha de Trouma. C'est une des Mishnayot les plus anciennes et les plus difficiles du Zohar. Il faut le Gaon de Vilna. Je dirais de lui ce que j'ai dit tout à l'heure de Maïmonide. Il faut prendre au sérieux le nom et le titre du Gaon de Vilna. Et dans le chapitre 5 du livre, si je me souviens bien, ici je vous le lis dans un livre d'études, c'est à la page 35B du Sifra d'Itniouta, mais vérifie, sur le commentaire du Gaon de Vilna. Il s'appuie sur un parallèle que fait la traduction talmudique déjà, entre les 6 jours du commencement de Maaseh Bereshit et les 6000 ans de l'histoire d'Israël jusqu'à la fin de la semaine des 6000 ans. Et vous savez qu'en calendrier hébraïque, nous sommes à la fin du 6e millénaire, puisque l'État d'Israël, il y a 40 ans, c'était en 5708 à la fin. Je reviendrai sur cette date tout à l'heure. Et pour dire ceci, des hommes de l'envergure du Gaon de Vilna avaient les idées claires. Ils ne cherchaient pas des signes en dehors de l'événement lui-même. C'est pas, je vais essayer un peu de paraphraser. En me référant à cette première attitude de réaction négative devant un tel sujet, la réaction de dérision, la réaction de sourire amusé, c'est de la mystique délirante. Quelqu'un a trouvé un signe, je sais pas moi, une pâquerette à 5 pétales, je sais pas si c'est ça, le Messie est là.
Hein?
Très, 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 non, je dis pâquerette parce que Pâques, la sortie d'Égypte, la délivrance, la bon. Et puis c'est une très jolie fleur, d'ailleurs. Oui, non, il ne s'agit pas du tout de ça. Et c'est l'événement lui-même qui est en lui-même son propre signe. Seulement, si on désigne l'éventualité que l'événement ne se dévoile que dans l'ordre de la loi des temps, alors il y a des références dans la prophétie. Quand est-ce dans l'ordre de la loi des temps? Et c'est une science pour elle-même. C'est une science qui existe. On ne peut pas dire n'importe quoi de n'importe quoi lorsqu'on est sérieux. Et encore une fois, je vous désigne le sérieux du profil de la stature du Gaon de Vilna, après avoir parlé de Maïmonide. Alors, se basant sur ce parallèle, le Gaon de Vilna dit ceci, je traduis, Vedar, chez Kolelou Ayamim, et sache que tous ces jours, les 6 jours du commencement, Rem Remez sont une allusion, les Shechet Alafim Shana, aux 6000 ans de l'histoire. Chez Shechet Yamim, Kemon Shekatou Leel, Perek Rishon, qui sont les 6 jours, comme il a été indiqué dans le premier chapitre du livre, du Sifra d'Isnuata. Ça veut dire que nous avons, dans le récit du commencement, la préfiguration de ce qui se développera dans l'histoire du monde pendant les 6000 ans de l'histoire. Vous comprenez qu'on aborde là un niveau d'étude qui n'est pas du tout habituel. Ça fait partie des études de la Kabbalah. Et nous ne pouvons utiliser ces données que parce que le Gaon les a publiées, si j'ose dire. Sinon, ça serait comme tout ce qui concerne la tradition initiatique, la tradition de la Kabbalah, ça ne dépasse pas les murs du Beit Hamidrash des kabbalistes. Ça ne se trouve pas dans les livres, ça ne se trouve pas à l'université ni ailleurs. Ce n'est que lorsque les grands d'Israël décident de publier quelque chose qu'on trouve les livres et qu'on peut les citer. Sinon, ça reste oral. Et ce n'est connu que de ceux qui le connaissent. Et il y a beaucoup de raisons pour ça, d'ailleurs, vous le présenter. Et alors, il dit « Shita al-Feshnin » Talian, Beshita, Kadmae, l'araméen, les 6000 ans sont reliés, dépendent des 6 jours antérieurs, les 6 jours du commencement. Mais Cholapratim et tous les détails, Sheyem, Beshisha, Yamimelu, qui nous sont indiqués par le récit de la Torah, et ça nous est incompréhensible, tous les détails de ce récit, qui sont dans ces 6 jours-là, Sheyem et Bereshit, des jours du commencement, Hemitnaagim, se développent, se conduisent, ça veut dire se réalisent dans le sens étymologique du terme, Be, Vav, Alafim, dans les 6000 continent, Kolechad Beyomo, chacun à son jour, Béchato et à son heure. Umikan, c'est là que la citation est importante, dit le Devina, et de là, Tedar, tu sauras, Ketsageoula, la fin de la délivrance, la fin du temps de l'exil, donc le temps de la délivrance, chez Ubeïta, lorsqu'elle advient en son temps, Chazve Shalom, Dieu préserve. Lorsqu'il n'y aura pas suffisamment de mérite, Sheu Ketsa Acharon, et qui est la fin dernière des moments possibles de l'avènement de l'événement, et le Gaon ajoute, Umashbi Ani, et j'adjure, est accoré le lecteur, Bachem Eloke Israël, au nom de Hachem, Dieu d'Israël, Shelo Igalese, qui ne dévoile pas cela. Donc, on peut se demander pourquoi le Gaon adjure de ne pas dévoiler, pourquoi lui le dévoile. Il est bien évident qu'il a donné suffisamment d'indications pour que nous sachions, si nous voulons, quand aurait lieu la fin des événements de l'exil, le rassemblement des exilés et, programme de Maïmonide, la constitution de l'État juif. Et l'explication est très simple. Quand on désigne un événement qui inéluctablement va venir beaucoup plus tard, alors on ne le désigne pas. Parce que qui aurait la patience d'attendre? On préfère dire, si vous méritez demain, si vous méritez l'année prochaine à Jérusalem. Et imaginons cette patience colossale pendant ces 2000 ans de ceux qui savaient, mais qui savaient aussi que notre peuple attendrait la fin. Et j'allais dire, c'est horrible, mais je le dis quand même, attendrait la solution finale. Eh bien, de se taire, et ils ne pouvaient pas leur dire rendez-vous dans 2000 ans, 1948, rendez-vous dans 2000 ans, en 1708. Alors ils ont dit demain, patience. Oui. C'est assez inouï, c'est inimaginable. Si on racontait cette histoire, personne ne croirait, mais nous l'avons vécu. Nous avons traversé ces 2000 ans de patience énorme. Et alors,
de patience,
de ceux qui savaient.
D'inertie
plutôt. Non, de patience pour ceux qui savaient. D'inertie pour.
Ah, pardon, on n'a pas fait ce qu'il fallait.
C'est vrai?
On n'a pas fait ce qu'il fallait, hein.
Non, écoutez, référons-nous à cette mémoire de la tradition. Je peux vous citer des milliers d'ouvrages où ceux qui savaient ont dit, et personne n'a voulu les entendre. Et d'ailleurs, ça continue. Oui, ça continue. Et c'est dans les milieux, précisément, où il faudrait qu'il y ait des oreilles pour entendre, qu'on n'entend pas. Et ça continue. Okay. Un dernier en date, je vais vous citer un homme politique, qui a hurlé dans toutes les communautés avant la Shoah, et personne n'a voulu l'entendre, on voulait le brûler, c'était Jabotinsky, soi-même. Okay. Et Jabotinsky ne citait pas le Gaon de Vilna. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Il suffit de se rappeler ça, ça continue. Nous sommes un peuple comme ça. Nous sommes un peuple messianique, toujours en retard. Vous savez que le Messie, même si tard, il faut l'attendre, alors les Juifs aussi. Alors, le Gaon se réfère donc à un enseignement qui se trouve dans le traité de Sanhedrin, à la page 38b, et où la Gemara, innocemment, comme en parlant d'autre chose, nous décrit ce que le premier homme a fait heure par heure, le sixième jour du commencement. Et c'est à la fin de la cinquième heure que Kam al-Rahla, la Tekuma, qu'il s'est dressé debout. Et voilà ce que désigne le Gaon de Vilna. Si tu veux savoir quelle est la date, quand ça arrive avec la date, Dieu préserve, eh bien lis cette Gemara, tu le sauras. Mais ne dis pas ce que tu as lu. Voilà, c'est clair. Alors je vais vous citer un des commentateurs de cette citation du Gaon de Vilna, qui mérite que je donne son nom, c'est le Chacham Haïm Shvili, que j'ai connu personnellement, qui est décédé déjà depuis assez longtemps, que j'ai connu à Jérusalem, qui était un kabbaliste originaire de Géorgie. Et son nom l'indique d'ailleurs, Shvili. Et qu'il explique de cette manière. Il dit, « Hine, Gaon Atsumze, ce Gaon colossal, considérable, le Gaon de Vilna, le Haya Mazhir ne mettrait pas en garde, mais le Haya Mashbiar ne jurerait pas, chez Loï Galou et Tassoud, qu'on ne dévoile pas ce secret, ou Ad Bozmano, jusqu'au moment où ça arrive. À partir du moment où ça arrive, alors le Gaon de Vilna parle. Okay. Et vous avez compris pourquoi on ne parle pas à l'avance. Okay. Petite question, parenthèse dans la parenthèse. Ça veut dire que ces grands maîtres qui sont nos maîtres connaissent un programme et ils n'en parlent pas. Et ça veut dire que s'ils le connaissaient jusqu'aux étapes que nous avons vécues, c'est qu'ils connaissent la suite. Et mais ils n'en parlent pas. C'est pourquoi on n'en parle pas. J'aimerais. Et il ne veut pas adjurer chez le Rigalo et Tassot qu'il dévoile ce secret, Azé Ad et Bozmano, ou Mikivan chez Ishbia, puisqu'il a adjuré ses lecteurs de garder le secret, Hare Batua Hadabar, il est évident, la chose est évidente, Bemea Achouz à 100% chez Haya Yodea Yadua Lomama Shazemanagul, qu'il connaissait de façon précise le temps de la délivrance. Encore une fois, lorsqu'elle arrive, Dieu préserve en son temps. J'espère que ça a été suffisamment clair, cette problématique d'alternative. Ou Bijot Shekevar, comme Hachami Mirushalayim. Ce texte a été écrit il y a en 1930. Donc, vous ajouterez tout le temps qui est passé dessus. Et le Hacham dit, et alors que, puisque déjà, plusieurs sages de Jérusalem, Patrou Petach Bidvarim Anistarim, ont commencé à entr'ouvrir la porte de ces choses cachées. Aré en Kanavon, il n'y a aucune faute, les galotes, de le dévoiler. Ou l'abrir, Otam Nakal Arahar, et de l'éclaircir, de le rendre clair pour le grand public. Vela Hefer, c'est l'inverse. Mitzvah, c'est une mitzvah, les Arot, les Kulam, de dire à tous, de montrer à tous, Shekvar Lifne Meavishim Shana, que déjà, il y a 160 ans à l'époque, non, près de 200 ans, Ramaz Agon et Yaoum Vilna, Zichron al-Bracha, le Gaon de Vilna a fait allusion, Al-Shnat Tashach Betashat, à l'année 5708 et à l'année 5709, que Al-Shnot Atralta de Geoula, comme les années du commencement de la délivrance, et là nous sommes en plein dans notre sujet, j'en dirai pas plus, je vais vous traduire, mais c'est inutile, c'est que qu'un événement politique de cet ordre messianique ainsi défini adviendra, et c'était inouï il y a 200 ans de penser, qui allait imaginer ça, Ben Gurion à Tel Aviv déclarant aujourd'hui nous avons fondé l'État juif et il prendra le nom de l'État d'Israël. Il y a 40 ans même, qui pouvait le penser, la veille, imaginez les discussions, les opinions, les échanges de points de vue, ah peut-être, ah oui, et pourquoi, et comment, et vous êtes sûr, okay. Et puis l'événement arrive, voilà que les grands d'Israël savaient avec beaucoup d'angoisse et d'inquiétude que si Israël n'intervient pas dans sa propre histoire pour mettre fin à cette impossibilité d'être qu'était l'être juif de l'exil, Lévinas parlait, Monsieur Lévinas parlait dans un de ses livres de difficile liberté. En parlant de la liberté de l'identité juive, il faudrait dire impossible, liberté impossible d'identité, s'est laissé aller aux événements, ils ont fonctionné. Et il explique donc que c'est très simple. Il dit que c'est très simple. Dans cette correspondance entre 1000 ans et un jour, eh bien les 500 premières années du millénaire, c'est la nuit, comme vous savez que la nuit précède le jour, et donc la fin de la cinquième heure arrive. Dans l'année 5708, et effectivement, il décrit avec luxe de détails qui nous est inutile maintenant, qu'il y a eu d'abord l'attaque par les armées de la Ligue arabe, et que ce n'est que à la première, pause militaire, je ne sais plus comment on disait, trêve, c'était tout Bishvat de l'année 5709, que à Jérusalem, il y a eu la grande liesse, parce que on recevait les premiers télégrammes du monde entier, reconnaissant enfin, la plupart de facto, mais déjà certains déjurés depuis le 5 hier 5708, le fait accompli de l'État juif. Et on a dansé dans les rues avant le défilé qui a eu ce jour-là à Jérusalem. Et c'est, d'après le conte du Gaon de Vilna, la fin de la cinquième heure et le début de la sixième heure du sixième jour. C'est l'année 5708-5709, tout Bishvat. Voilà, pour vous donner la date précise. Alors, ça donne le vertige. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas le dire que ça donne le vertige. Mais j'ajouterais, c'est tellement rassurant qu'au moins, il y avait des gens qui savaient vous voyez, j'oserais pas ajouter d'autres choses à tout cela, mais je voudrais quand même vous donner cette correspondance, bien qu'elle soit très pénible à entendre, avant une dernière citation. Voilà, la sortie d'Égypte a eu lieu dans le calendrier hébreu en l'année 2448, depuis le commencement du calendrier hébraïque. Et c'est l'année 1312 avant le compte du calendrier chrétien. Si vous voulez noter, c'est... Shivat Zion, le retour du deuxième exil, a eu lieu en l'année 3408 du calendrier hébraïque, c'est-à-dire moins 352 du calendrier chrétien. La déclaration Cyrus, que je vous ai lu tout à l'heure, a eu lieu en l'année 3390, c'est-à-dire moins 370 du calendrier chrétien. Assuérus a pris le pouvoir en Perse en l'année 3392, c'est-à-dire 2 ans après. Suivez, c'est-à-dire déclaration Cyrus, le feu vert donné aux Judéens de rentrer à Jérusalem. Patience de 2 ans, les juges ne bougent pas. Mardoché est le président du consistoire de Suse, la capitale. Okay. Et la reine Esther, personne ne sait qu'elle est juive. Elle le savait, Mardoché aussi. Okay. Assuérus prend le pouvoir en moins 368 du calendrier, je ne sais plus si c'est géorgien ou julien. Grégorien, enfin, oui, je suis avec le Haram Shvili encore. Aman prend le pouvoir en 3398, 6 ans après, c'est-à-dire en moins 362 du calendrier non-juif. Des événements de Purim, c'est l'année 3404-3405 du calendrier hébraïque, c'est-à-dire moins 356, moins 355 du calendrier chrétien.
1500.
C'est quoi ?
1500.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
3404.
Non, 3404. 404, pas, c'est quoi ? Oui. Voilà la succession des événements. Déclaration Cyrus. Prise de pouvoir d'Assuérus. Prise de pouvoir de Haman, le risque de la Shoah qui a été évité grâce à la reine d'Esther, mais le déroulement des événements. Et bien de notre temps, la déclaration Balfour, c'est en 5677, en 1917, en même temps que la révolution russe. Et c'est pas une coïncidence, c'est pas qu'une coïncidence. C'est bien cela, hein, 1917. Donc, la prise de pouvoir de Hitler est en 5693, c'est-à-dire en 1933. Entre 1917 et 1933, il y a eu du temps. La Shoah a commencé en 5699, a duré jusqu'à 5707, c'est-à-dire de 1939 à 1945. Voilà, je crois que c'est inutile de commenter. 45, oui. C'est inutile de commenter, ça veut dire qu'il y a effectivement ce qu'on pourrait dire en épistémologie, une espèce de loi de l'événement qui apparaît dans l'ordre des événements de la fin des temps d'exil et de la constitution, de la restauration de l'entité nationale Israël. Ces événements se sont passés à la sortie d'Égypte, ces événements se sont passés à Shivat Zion, et il y a eu le miracle de la reine Esther qui nous a économisé la Shoah de Perse. Et puis Cyrus n'était pas le pharaon. Je dois vous dire d'ailleurs que les chroniques signalent que quelques années après, Mardoché fait sa alia. Et on le cite dans une de nouveaux alim de l'époque, on le cite un parmi les autres, que là, il était probablement. Il était rentré dans le rang. Okay. Alors que dans les événements de Perse, il était Mardoché de Perse. Okay. Voilà, je vais terminer en vous donnant une dernière citation qui est, et après j'aurai une phrase de conclusion pour vous donner la parole, qui est tirée de ce livre que vous connaissez peut-être sans doute, qui est le Sidour des Tfilot de Yom HaTzmaout. Okay. Et là voilà, je vous lis cela, en vous donnant d'abord la référence. C'est un commentaire des 5 Megillot qui a été fait par un hacham exilé d'Espagne qui s'appelait Arar Don Yosef Berabi David Ibn Yahya, Migoles Farad, et le livre a été édité à Bologne en l'année 5000... attendez, que je vous calcule ça, c'est Shnat Rapah. Quelqu'un peut calculer Rapah, c'est-à-dire 5 et 2, 7, 788. 798, oui. Voilà ce qu'il dit. Besof a hameshet alafim, à la fin des 5000, veshevar meot shana, Et 700 ans, les Briat HaOlam, de la création du monde, ça renvoie au calendrier hébraïque, mais qui roule à peu près avec l'humour des rabbins. Okay? À la fin d'une période de 5700 ans, mais qui roule un peu avant, un peu après. Im me'at kodem o me'at harkach, soit un peu avant, soit un peu après, je le vois sourire dans sa barbe. Yabo kitsenu be'ezrat Hashem. Arrivera la fin des gens d'exil avec l'aide de Dieu. Voilà. Alors il savait, hein, le livre existe. Et il y a énormément d'autres citations. Donc je voudrais conclure en disant que, bien évidemment, il s'agit d'un événement politique de portée considérable, tant au niveau de la relation de politique extérieure de l'histoire du peuple juif, que en relation à l'entité politique intérieure, la mutation d'un peuple dispersé qui redevient une nation indépendante, comme au temps de la sortie d'Égypte, comme au temps de Shivat Zion, avec une problématique d'affrontement de l'universel humain tout entier. Et il est inutile d'en citer les composantes. Nous le vivons encore intensément ces 4-5 derniers mois. Et puis, comme tel, et sans chercher de signe ailleurs de l'événement même, il s'agit, selon les maîtres de la tradition d'Israël, du commencement de l'application du programme des espérances messianiques. Je crois que le sujet est bouclé. Et il suffirait simplement de citer les deux premiers mots de Maïmonide, « Hamelech, Hamashia, ça fonctionne. » Ben, vous avez la parole. Quelle, je vous en prie.
Une question. Vous parlez des exilés. On n'est pas exilés en Israël.
Écoutez, je ne crois pas que la question fasse partie du sujet. Parce que le mot exilé a changé de sens au début de votre question et à la fin.
Non, parce qu'on parlait de nation dispersée qui devient une nation indépendante. Alors, à partir du moment où on est devenu une nation indépendante.
Écoutez, il faut prendre les choses au sérieux. Et être sérieux, Ken. Pendant 2000 ans, les Juifs étaient un peuple dispersé, greffé sur des entités politiques étrangères. Depuis 1948, il y a une société hébraïque sur la terre d'Israël qui est souveraine politiquement, avec les migbalot, comme nous disons, les limites de toute souveraineté politique d'un État de ce genre. Alors, c'est une mutation radicale dans l'ordre historique, et c'est de cela que je parle. Okay. Maintenant, je comprends votre question, et je ne pense pas qu'elle fasse partie de notre sujet. Oui, vous avez la parole.
Est-ce que le temple, la reconstruction du temple dont on parle, Maïmonide, que vous avez cité, le deuxième stade après l'Alert Mashiach, est-ce que c'est le temple dont nous parlons communément, nous, le troisième temple, le temple, disons, qu'on appelle aussi le temple d'Ézéchiel, ou est-ce que c'est un temple que ceux qui sont revenus, pas les dix tribus, mais les premiers exilés rassemblés, qui ont dressé le royaume du roi Messie, justement, est-ce que c'est ce temple-là, c'est le second temple, la nouvelle version, ou le troisième temple?
Écoutez, je ne peux pas répondre à la place de Maïmonide, Ken. Tout porte à croire qu'il pense effectivement qu'il s'agit du troisième temple. De la même manière que tout porte à croire qu'il pense effectivement que lorsqu'il y aura un gouvernement juif en Eretz Israël, il s'agit du commencement du programme messianique tel que je l'ai décrit, première étape, le rassemblement des exilés. C'est bien clair. Et alors, je crois donc que la question doit être reportée un peu en arrière. La logique de cette question, c'est que, est-ce que Maïmonide penserait que l'État juif contemporain, c'est bien ce qu'il attendait? Est-ce que c'est clair? De la même manière que s'il nous arrive de construire le temple, est-ce qu'il pensera que c'est bien le temple qu'il attendrait? C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Vous comprenez pourquoi? Il faudrait que Maïmonide réponde. Mais ce que je veux dire, et je vous raconterai une petite anecdote que j'ai entendue de Mme Amadou Valensi, ce que je veux dire, c'est qu'après avoir attendu pendant 2000 ans, tout se passe comme si on a perdu la raison, dans le sens que on est désorienté, on n'arrive pas à diagnostiquer qu'est-ce qu'on attendait. Une espèce d'imagerie, de fantasmagorie qui nous cache la réalité. Dans sa signification de sensibilité traditionnelle que je désignais tout à l'heure, c'est dans la réalité qu'il y a la vérité. Nous sommes des monothéistes. Hachem ou Elohim. Nous ne sommes pas des dualistes. Bien. Et alors, la. Voilà, voici l'anecdote. Elle nous a raconté, vous savez qu'elle s'occupe de psychiatrie, qu'elle s'occupe, qu'elle s'est occupée d'une femme. De psychiatrie. De
psychanalyse.
Oui, de psychiatrie aussi. Et elle est psychanalyste, mais elle s'occupe de psychiatrie. Elle s'est occupée d'une femme, elle est aussi psychologue d'ailleurs, d'autre part, et philosophe. Eh bien, mais j'ai pas dit qu'elle était psychiatre, j'ai dit qu'elle s'occupait de psychiatrie clinique. Et c'est pas grave. Elle s'est occupée d'une femme qui était une juive réfugiée de Russie en France. J'ai eu un petit bébé, veuve, et puis le bébé a grandi, le bébé est devenu une jeune fille, elle a épousé un juif américain, elle est allée vivre en Amérique avec son mari. Et toujours, elle promettait à sa mère de revenir avec les enfants qui naissaient entre-temps voir la grand-mère. Donc. Et puis, ça a duré. L'année prochaine, ça a duré. 20 ans après, elle a ramené ses enfants pour voir la grand-mère. La grand-mère avait tellement attendu que lorsque les petits-enfants sont arrivés, elle est devenue folle. C'est-à-dire, c'est un peu, ça c'est moi qui interprète maintenant, un peu ce qui est arrivé aux Juifs. On a tellement attendu que lorsque c'est arrivé, on est devenu fou. On ne s'est plus du tout rendu compte de qu'est-ce qu'on attendait. Et il y a quelque chose de cet ordre. Une fois, je me souviens, j'étais dans une yeshiva, et ça arrive. Et puis, c'était avant qu'on sache que j'étais sioniste. Alors, depuis, je suis interdit de séjour. Quand on sait que j'arrive, on ouvre les psaumes. Et alors, remarquez, ça fait pas de mal. Et alors, il y a un Bachou Yeshiva qui, très sérieusement, m'a posé la question suivante. Et il était indigné. Il dit, comment ? Mais on attend le Messie. Et de quoi tu parles, Ben Gurion ? Quel rapport ? Alors je dis, je vais te raconter une histoire. Imaginez la déception. Je vais te raconter une histoire. Je dis, voilà, c'est la première fois dans le monde qu'une femme attend un enfant. Elle a attendu longtemps. Elle ne sait pas ce que c'est, avoir un enfant. Ça n'avait jamais encore pas existé depuis 2000 ans. Okay. Imaginez la scène. C'est facile à imaginer. Et alors elle rêve un prince charmant. L'accouchement arrive, on lui apporte une petite larve, pleine de sang et de boue, on lui dit quoi, c'est ça? Alors qu'est-ce que va répondre la sage-femme, si elle est sage, cette femme? On lui dit, ben attends, il va grandir, il n'y en a pas d'autre, c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre. Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à l'atmosphère de la question. C'est-à-dire, au fond, il s'agit d'arriver à faire l'effort de redevenir monothéiste, tout simplement. C'est un blasphème colossal, en tout cas dans le secteur religieux, de dire que ce qui se passe en Israël, ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est un blasphème colossal. Okay. Et alors, au point qu'ils sont acculés à dire, ça peut être que Dieu ou le diable, comme ce n'est pas Dieu, alors c'est le diable. Vous voyez pourquoi ça tourne comme ça? Okay. Donc, je sais, par expérience, que c'est un très grand effort d'arriver à rentrer dans la foi juive. C'est-à-dire l'unité entre la vérité et la réalité. Et je crois que nous avons à nous battre contre ces démons du dualisme. Okay. Le ciel et la terre n'ont aucun rapport. Okay. Il faut entendre les prophètes hébreux enseigner, parler. Hachem ou Elohim, c'est Dieu qui a créé le monde. Et alors, penser dans cette position de la foi juive traditionnelle que quoi que ce soit d'aussi important se passe hors du regard de Dieu, c'est un blasphème colossal. C'est tout simplement qu'on ne sait plus de quel Dieu on parle. Et c'est moi, j'ai pas fini. Je voudrais vous citer un enseignement que le professeur Neher a l'habitude de nous donner le jour de Yom HaTzmaout. Et en citant une des bénédictions de la prière du Shmoneh Esrei, dans le rite Ashkenaz, Velirushalayim Incha, Belachamim Tashuv, et que à Jérusalem ta ville, tu reviennes avec miséricorde. Et on prie ça pendant 2000 ans, 3 fois par jour. ça se chante, c'est un très beau chant d'ailleurs, Belerushalayim Mircha, Belachamim Tashu. Vous avez remarqué, je n'ai pas chanté. Et alors, il a dit qu'il a eu trois périodes dans sa vie. Dans la première période, il s'adressait à Dieu en disant Belerushalayim Mircha, Belachamim Tashu, toi Dieu, à ta ville, rentre, reviens, avec miséricorde. La deuxième période, il a commencé à devenir sioniste. Et vous savez que c'était un sioniste dans la deuxième période. Eh bien, c'est un juif qui donne l'argent, qui prend de l'argent d'un deuxième juif pour envoyer un troisième juif en Jérusalem. Alors on s'est adressé aux juifs apatrides et on leur disait, je t'en prie, à Jérusalem, ta ville, rentre, fais ta alia. Okay? Dans la troisième partie de sa vie, il s'est dit, mais il s'agit de moi. Et c'est à lui qu'il se parle. Et à Jérusalem, ta ville, rentre avec miséricorde. Il vaut mieux avec miséricorde qu'à couper quelque part. Voilà, c'est grosso modo le drache qui nous donne toutes différentes formes l'histoire de Yom HaTzmaout. Et ça a été l'histoire de notre temps. Okay. Alors, ceci dit, et il faut évidemment pas basculer dans la pensée mythique, tous les niveaux d'authenticité, d'authentification existent. Mais quelque chose d'irréversible s'est produit. Il s'est passé quelque chose le 5 Iyar 5708. J'espère vous avoir dit suffisamment de choses pour que ça annule les fausses questions. Oui, je vous en prie. Attendez, monsieur, s'il vous plaît.
Vous avez dit que les temps que nous vivons sont irréversibles. Et bien entendu, tous ici, nous l'espérons, nous le souhaitons, nous voulons faire tout ce qu'il faudra pour cela. Mais les deux événements précédents que vous avez cités ont tous une fin. Le premier, lors de la captivité de l'homme, le second, lors de la destruction du bon temps.
Très bien.
Alors, notre cas, quelle est, si j'ose employer cette expression, quelle est la garantie que ce sera irréversible?
Oui.
Que devons-nous faire?
Très bien. Très bien. Alors écoutez, très très bien. C'est une question à sa place. Et je dois dire que je veux rester dans la cohérence de l'analyse que j'essaie de vous présenter. Je n'ai pas parlé de mes opinions personnelles. Il ne sait pas que ça a déjà commencé. Je n'ai pas parlé au niveau, si vous voulez, de l'opinion ou de l'espérance. Comme vous savez, comme vous l'avez dit, ça coïncide. Notre opinion, notre espérance, notre foi, notre témoignage va dans ce sens. Je me suis placé dans une cohérence de citation de la mémoire traditionnelle juive, parlant de la réalité que nous vivons. Et vous pensez bien donc que cette question a été étudiée en long et en large. Je m'excuse de l'expression, c'est celle qui me vient à l'esprit. Et je vous donnerai quelques coups de projecteur. Les citations sont très nombreuses. Mais en particulier, je voudrais me référer à une permanence de l'enseignement suivant à travers les grands maîtres, et en particulier le Shla, le Shneluchot Ahurit, qui établit un parallèle entre les trois exils éventuels a priori, mais comme nous le savons, a posteriori inévitables, et les trois patriarches. Et grâce à Dieu, nous n'avons que trois patriarches. Bon. Je vous donne ça très, très succinctement. L'exil d'Égypte est mis en parallèle avec l'histoire d'Abraham, l'exil de Babel avec l'histoire d'Isaac, et l'exil de Jacob avec l'exil de Rome, l'exil d'Ésaü avec l'histoire de Jacob. Nous sommes à la fin de l'exil de Rome, à la fin de cette nuit où Jacob a lutté avec l'ange d'Ésaü et où il a reçu le nom d'Israël. Après 2000 ans, nous avons reçu le nom d'Israël. Il y a des bouches de qui ça sort pas, mais c'est irréversible. Okay. Ils préfèrent dire Tel Aviv. Bon, c'est joli aussi Tel Aviv. Mais là, en particulier, je vous donnerai une référence. C'est le Yalkut Shimroni, qui est une anthologie des Midrashim sur le chapitre 60 d'Isaïe. Okay. Ou bien l'ensemble des Midrashim sur Asia Shemoshé, le premier verset de la Shira. C'est que la délivrance du troisième exil ne sera pas comme les deux premières, elle ne sera pas suivie d'exil. C'est dit en toutes lettres et de mille manières. Ceci dit, il faut quand même comprendre à quel niveau une question se pose. C'est la différence de goral, de sort, entre l'individu et la collectivité. C'est à l'échelle du clan Israël que c'est irréversible. À l'échelle de l'individu, ça dépend de son lien d'insertion dans la collectivité. Je vais le déplacer un peu en parallèle sur la question de la définition même de l'espérance messianique. Nous l'avons vécu depuis l'origine à la fois comme une certitude totale et une incertitude totale en même temps. Vous savez, ça fait partie d'une des problématiques de la sensibilité juive traditionnelle qui est très importante. La foi, c'est une certitude totale et en même temps une incertitude totale. Mais à quel niveau ? Et le thème dans la Kabbalah est que la force d'Israël, c'est une patience colossale en même temps qu'une impatience colossale. C'est Israël. Arichampin et Zéharapin. La patience absolue et l'impatience absolue. Mais il ne faut pas se tromper de temps. Quand est-ce qu'il faut être patient ? Quand est-ce qu'il faut être impatient ? Okay. Sinon, on risque de devenir patient de Madame Amadou. Et là, voyez-vous, la foi messianique, l'espérance messianique, était une certitude totale que cela arrivera. Ça ne peut pas ne pas arriver dans l'économie de la foi juive. Une incertitude totale sur la question est-ce que ça me concernera. Ça, ça dépend de moi. C'est pourquoi il y a inquiétude absolue. Il y a, arbitraire absolu. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu. Nous le vivons ainsi. Ça, une minute. Ça se rattache un peu à ce que Abraham a vécu dans l'épreuve de la Akedat Yitzhak. À un certain niveau, il est certain qu'il savait qu'il reviendrait. Et il dit à son fils, nous reviendrons. Hein? À un autre niveau, il ne savait pas du tout s'il reviendrait. Nous savons que Israël arrivera au bout. À quel prix ? Nous ne savons pas. Nous devons passer l'épreuve comme s'il n'y a pas de bout. Quand on est dans l'épreuve, il n'y a aucune référence à au Deus ex machina, comme dirait Corneille. Comment on dit ça en français, j'ai oublié. À l'issue bienheureuse. Je me souviens, pour ceux qui ont vécu.